Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me réjouis de tout ce que je vois et de ce que j'entends. Je m'appelle Raphaël et je suis content d'être là aujourd'hui, à plus forte raison, parce que j'apprécie beaucoup Philippe. C'est quelqu'un d'agréable, de sympathique, de patient, toujours prompt à rendre service, avec un zèle et une proactivité à la fois gigantesque et humble. Il vient plusieurs fois par semaine, parfois même avant que votre réveil sonne, pour préparer, installer, fabriquer, entretenir, et cela depuis des années. Avec Nico, on était très encouragés de ça, et on s'est déjà dit il y a longtemps, si tous les chrétiens avaient la même proactivité dans le service que Philippe, l'Église serait complètement transformée. Et pourtant, est-ce sa gentillesse qui le sauve de la perdition? Est-ce son zèle dans ses travaux, tellement utile à ce bâtiment, qui fait de lui un ami de Dieu? Est-ce son côté pratique et son efficacité qui donnent un sens à sa vie en vue de l'éternité? Assurément, non. Assurément, non. Assurément, non. Mais ne vous contentez pas d'écouter mon avis. Lisons plutôt ensemble ce que dit la Bible. Plus précisément, ouvrons nos Bibles vers la fin dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Éphésiens, à partir du chapitre 2. Je crois que la télécommande ne marche pas. Tu peux passer pour moi. Donc, Éphésiens, chapitre 2. Et nous verrons trois choses qui vont nous indiquer que Dieu nous ramène de la mort à la vie par la foi en Christ. Premièrement, nous verrons que nous sommes perdus. Tu peux passer. Nous sommes perdu, et nous le verrons au travers des versets 1 à 3. Nous sommes morts, esclaves et condamnés. Ensuite, à partir des versets 4 à 7, nous verrons que Dieu est riche en compassion. Et il a un plan de sauvetage incroyable que nous allons voir dans ce texte. Et troisièmement, nous verrons qu'en Jésus, nous sommes sauvés par la foi. Alors lisons maintenant, comme je l'ai dit, dans Éphésiens 2, les 10 premiers versets. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Fin du passage d'aujourd'hui. Et on part d'un constat difficile. Tu peux passer à la slide suivante. On part d'un constat difficile. L'homme est mort à cause du péché. L'homme est captif, est esclave, est prisonnier de l'influence de Satan. L'homme est condamné. Tu peux passer. Vous savez que la vérité n'est pas toujours facile à entendre. Mais, merci. Vous savez que la vérité n'est pas toujours facile à entendre. Mais si Dieu, et puis ici son messager Paul, fait ce constat, c'est pour, non pas nous laisser dans cette misère bien sûr, mais au contraire pour nous expliquer son plan de sauvetage que nous verrons plus tard. Mais tout d'abord, analysons un petit peu ces trois constats que l'on vient de souligner dans notre texte. L'homme est mort dans le péché. C'est-à-dire que l'homme est spirituellement mort. Pour comprendre cela, revenons au tout début de l'humanité. On rembobine Adam et Ève. Adam et Ève vivaient au départ exempts de péché. Il n'y avait rien qui venait entraver leur relation avec Dieu. Et pourtant, ils ont fait le choix de désobéir à Dieu. Et ils ont rompu ainsi cette relation entre Dieu et les hommes. Et nous sommes aujourd'hui héritiers de cette rébellion contre Dieu, avec cette fâcheuse tendance à vouloir l'entretenir. Et le monde l'entretient toujours encore. Afin de souligner cette relation de cause à effet historique, j'aimerais vous relire les versets 1 et 2 dans une version plus littérale. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Nous sommes fils de la rébellion, héritiers du péché amené par Adam. La relation de l'homme avec Dieu a été brisée dans le jardin d'Éden. Bien sûr, ce n'est pas une pomme, hein, c'est un fruit défendu. Hein, personne n'a dit que c'était une pomme. Et sans une relation rétablie avec Dieu, nous sommes spirituellement morts. J'en arrive sans transition au second constat. L'homme est esclave. Il est captif de l'influence du monde, de Satan et des désirs de sa chair. Une pub disait « Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits ». Et je vous présente ici la Happy Box, la boîte à bonheur. Parce que oui, il y a bien du plaisir immédiat à manger des boules de sucre raffinées gorgées d'édulcorants. Mais nous savons pourtant aujourd'hui que ce sucre raffiné, certains édulcorants, sont du poison pour notre santé, une drogue pour notre cerveau. Baisse de l'activité des globules blancs, augmentation des inflammations, déséquilibre du microbiote intestinal et pour certains, insulinorésistance. Après, on s'étonne de tomber malade. De plus, tout ce sucre nous maintient captifs, esclaves de shoots de dopamine, faisant à force perdre à notre cerveau toute motivation pour ce qui est normalement vraiment important. C'est le même principe délétère avec certains de nos écrans, avec certains contenus qui peuvent être addictifs et sur lesquels nos yeux restent collés, englués, où on devient comme des zombies. Le bonbon reste une image, bien sûr, hein, limitée dans l'analogie, car il n'y a rien de mal à prendre occasionnellement un bonbon ou un petit peu de sucre. Ce n'est en revanche pas le cas pour le péché. Mais quand le texte nous dit que nous étions captifs du prince de la puissance de l'air ou captifs de l'influence de Satan, c'est comme si nous avions cru que manger un paquet de 500 grammes de bonbons, c'était beau la vie, sans voir les dégâts que cela occasionne dans notre corps. Sans voir que c'est cela qui nous rend malades. Ne sommes-nous pas parfois bien naïfs sur la vraie nature de certaines de nos habitudes, rendues acceptables par notre culture, notre environnement social ou encore notre auto-justification complaisante. Laissons le Saint-Esprit remettre en cause nos habitudes toxiques. Par quoi est-ce que je suis intoxiqué? Posons-nous cette question cette semaine. Dernier constat. L'homme est condamné. Et j'aimerais vous relire le verset 3 dans une autre version aussi, une autre traduction. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. De même que nous sommes fils de la rébellion, voilà que de génération en génération, nous sommes fils de la colère et nous l'entretenons en vivant selon les convoitises de notre chair. Mais peut-être que certains diront, moi je suis comme Philippe, je suis quelqu'un de bien. Alors, comme vous êtes tous probablement des gens bien, permettez-moi de rester sur une note culinaire en vous proposant un beau gâteau. Un superbe gâteau super appétissant, glaçage fruits rouges orné de triple crème avec perles de sucre argenté. Vous en voulez ? Alors, qui veut réserver une part de gâteau, de ce gâteau fort appétissant pour le repas juste après ? Ok, il y en a quelques-uns. Ok. Mais en fait, je ne vous ai pas tout dit. Il y a eu un petit couac pendant la préparation de ce gâteau. Il y a un œuf pourri qui est tombé dedans. Mais je vous rassure, c'était un œuf parmi 12. Et puis, j'ai vraiment enlevé ce que je pouvais. Qu'est-ce que ça chlingue, ce truc ? C'est une véritable infection. Et puis, au final, ça correspond à quoi ? 2-3% du gâteau. Est-ce que vous voulez toujours de mon gâteau ? Non ? Ah mince ! Alors, ceux qui fréquentent cette église m'ont déjà entendu l'une ou l'autre fois utiliser cette image, mais je la trouve parlante, parce que non, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, je n'ai pas vraiment fait de gâteau, c'était juste une illustration. Et j'ai ramené du dessert hein, quand même. Et ça s'est bien passé. Mais retenez bien cela. Même si vous pensez être une bonne personne, face à la sainteté de Dieu, nous sommes par nature comme ce gâteau que le péché rend impur. Il est là l'œuf, hein, le coupable. Jésus, lorsqu'il s'adressait à la foule, a placé la colère et l'insulte envers quelqu'un au même niveau que le meurtre. Il a aussi dit, si vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et la liste continue. Qui, aussi bonne personne soit-elle, peut entendre dire Jésus, peut entendre Jésus dire cela et maintenir que sa vie est irréprochable devant Dieu? Mais alors, si vous vous êtes braqué, peut-être pendant cette première partie du message, c'est le moment de vous décontracter et de recevoir en pleine face l'amour incroyable et inconditionnel de Dieu. Vous verrez, ça fait drôlement du bien. Et on arrive au verset 4, ce verset charnière du texte qui nous dit « Mais Dieu ». On va prendre nos trois constats. On a noté avant, l'homme est mort, l'homme est esclave, l'homme est condamné. Et on va voir ce que Dieu en a fait par pure grâce. Nous étions morts dans le péché, mais Dieu nous a rendu la vie avec Christ. Verset 5. Nous étions esclaves, captifs de l'influence de Satan, du monde, de nos propres désirs. Mais Dieu nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 6. Nous étions condamnés, mais Dieu va passer l'éternité à nous montrer l'immense richesse de son amour et de sa bonté en Jésus-Christ. Verset 7. Waouh ! Est-ce que ça ne vous donne pas envie de louer Dieu ? Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais chacun de ces versets, les versets 5, 6, 7, exprime notre nouvelle condition comme étant « avec Christ » ou « en Jésus-Christ ». Verset 5, « Mais Dieu est riche en compassion à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. » En effet, si Jésus est mort, c'est parce qu'il est mort à notre place. Lui qui est parfait, il est mort à ma place pour mon péché, il est mort à ta place pour ton péché. C'est ce qu'a fait Jésus pour nous et pour tous ceux qui veulent bien accepter son pardon. Personne ne mérite le salut, certes, mais personne n'est trop indigne pour recevoir la grâce de Dieu, bien qu'elle soit imméritée. Ce serait mépriser l'infinitude de son amour et de son pardon. Et nous lisons qu'il nous a rendu la vie avec Christ. Christ a non seulement payé le prix pour notre péché, mais il nous a ressuscités de notre mort spirituelle. Il nous réconcilie avec Dieu et nous recevons une nouvelle identité. Amen. Verset 6. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Un esclave siège-t-il dans les lieux célestes ? Lui est-ce accessible ? Bien sûr que non. Et pourtant, Paul lève le voile sur le fait que nous partageons la destinée glorieuse de Christ. Ce qui lui advient nous arrive simultanément. S'il ressuscite, nous reprenons vie avec lui. S'il monte au ciel, nous y accédons en sa compagnie. Unis à lui, nous sommes au bénéfice de sa vie, de sa résurrection, de sa victoire, puisque nous siégeons avec lui dans le monde céleste. Le disciple de Christ vit simultanément dans deux dimensions. La dimension terrestre et la dimension céleste. Sur terre, nous sommes appelés à marcher selon les œuvres qu'il a préparées. Et selon Éphésiens 2, 6, nous siégeons avec Christ dans le monde céleste. Nous avons donc les pieds sur terre et le cœur ou la tête dans le ciel, mais un jour nous aurons les pieds, la tête et tout notre corps ressuscités dans le nouveau ciel, la nouvelle terre avec lui. Quelle grâce incroyable! C'est ce que souligne le verset qui suit, verset 7. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Si ce salut se manifeste à présent, nous continuerons à le célébrer dans l'avenir. À Dieu soit la louange, la gloire pour l'éternité, que nous soyons dans notre chambre, dans notre foyer, là où Dieu nous place, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Qu'est-ce qui a motivé Dieu à opérer ce renversement décrit dans les versets 4, 5, 6, 7 ? Ce sont quatre de ses attributs, attributs que nous voyons aussi dans nos groupes de binômes de prière. Donc quatre attributs. Verset 4, sa compassion. Verset 4 encore, son grand amour. Sa grâce au verset 5, au verset 7, puis au verset 8. Et pour finir, sa bonté, verset 7. Notre salut est totalement immérité, certes. Mais loué soit Dieu pour sa compassion, son grand amour, sa bonté, sa grâce manifestée en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Nous avons vu que Dieu nous donne la vie avec Christ, mais voyons ce qu'est la vie en Christ. Ce serait toute une thématique, mais pour faire court, regardons au chapitre 1, verset 3, qui nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » En Christ signifie que notre identité est en Christ, et que c'est au travers de Christ que nous avons accès aux bénédictions de Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, nous dit Romains 11, 36. Mais tu te dis peut-être, comment bénéficier du salut de Dieu ? Qu'est-ce que je dois faire ? Réponse au verset 8 et 9 de notre texte, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. C'est un cadeau, c'est offert. C'est mieux qu'une grâce présidentielle, c'est une grâce du Dieu de l'univers. Et ça s'accepte par le moyen de la foi. Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais voici la suite. « Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Il nous faut reconnaître notre péché, accepter avec repentance la grâce que Dieu nous offre. Voilà ce qui fait de nous des fils et des filles du Dieu Très-Haut. Voilà comment nous devenons, comme Abraham, des amis de Dieu. Mais reconnaître notre péché et demander pardon implique aussi d'accepter de mourir au péché. Malheureusement, il nous arrivera encore de pécher. Et ça nous arrive encore. Mais comme le dit 1 Jean 1, verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Rétablir la relation avec Dieu implique d'entretenir notre relation avec lui. Cela se fait au travers de la lecture de la parole, de la prière, de la communion avec les frères et sœurs et bien sûr dans la communion avec le Saint-Esprit. Mais toutes ces choses que je viens de mentionner sont encore des dons de Dieu, comme nous le rappelle la fin du verset 8. La Bible nous dit que le choix de suivre Jésus comme Sauveur et Seigneur se manifeste par le baptême. Et je suis tellement heureux de voir Philippe concrétiser cela. C'est un don de Dieu. Dans Colossiens 2, 12, on peut lire « Vous avez en effet été ensevelis par lui, par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. » Le symbole est fort. L'immersion symbolise et confesse le choix de la mort au péché. Et lorsque nous remontons, nous témoignons avec Christ de notre nouvelle naissance. Je vais relire le verset 10 dans la traduction du Semeur. « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union à Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. » Philippe, que tu puisses embrasser cette vocation, que ton service dans l'Église soit l'expression de ta reconnaissance envers Dieu d'avoir été sauvé par pure grâce. Ne pense jamais le contraire. Ne faisons pas des œuvres pour notre salut, mais au contraire, à cause de la joie de notre salut, œuvrons avec obéissance dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Œuvre avec des joies et des souffrances, mais avec un épanouissement spirituel garanti. D'ailleurs, marcher dans les bonnes œuvres prévues d'avance ne se limite pas à ton service dans l'Église, ni même à des actions sociales ou de l'évangélisation. Il s'agit de toute l'obéissance chrétienne, toute ta marche de croyant, que je t'invite à lire dans les chapitres suivants de l'Épître aux Éphésiens. Et tu n'es pas seul pour cela. Dieu les a préparés d'avance. Dieu a aussi, dans cette nouvelle création, fait de l'Église son temple. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment, bien sûr, mais je parle de la communauté des croyants que Dieu s'est acquis en Jésus-Christ. Tu ne rejoins pas là un club vénitien, mais la communauté des croyants rachetée par Christ dans toutes les époques et dans tous les lieux, l'Église universelle de Christ. Et j'aimerais à cet effet lire les derniers versets de notre chapitre d'aujourd'hui, les versets 19 à 22. « Ainsi donc, vous n'êtes plus ni étranger, ni résident temporaire. Vous êtes, au contraire, concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés pour former une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alors pour conclure, nous étions morts, séparés de Dieu par le péché, ce péché qui nous colle à la peau de génération en génération, étant esclaves du monde, de Satan, de notre chair. Nous étions condamnés, voués à la colère de Dieu. Mais Dieu, dans sa compassion, dans son ardent amour, dans sa bonté, dans sa grâce, nous a rendu la vie. Nous a fait asseoir en Jésus-Christ dans les lieux célestes, nous chérit pour l'éternité de son amour et de sa bonté. Nous pouvons recevoir son cadeau par le moyen de la foi. Non en faisant quelque chose, mais en acceptant son salut avec repentance. De là découle une vie nouvelle, une nouvelle identité, un nouveau statut, une nouvelle famille et de belles œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, pratiquons. Nous allons dans quelques instants nous réjouir autour d'un repas. Que cette réjouissance ne soit pas issue du sucre raffiné, ni avant tout des mets goûtus et variés, mais que cette réjouissance soit en premier lieu l'expression de notre reconnaissance pour ce salut merveilleux. N'hésitez pas à témoigner à votre voisin de votre reconnaissance pour ce que Dieu fait pour vous. Alors que le goût sucré des desserts vient éveiller vos papilles, pensez à ce sucre raffiné que vous propose le monde, le prince de l'air et votre chair, que vous acceptez de consommer et qui vous donne une haleine de mort. Qu'est-ce qui est devenu acceptable pour vous, venant du monde, de Satan, de vos désirs, et qui ne devrait pas faire partie de vos vies? Choisissez de les déposer dans la prière avec votre binôme de prière cette semaine, et si vous n'en avez pas, il y a des frères et sœurs, des amis dans la foi avec qui vous pouvez prier. Mais en ce qui concerne le dessert, profitez-en, c'est une bénédiction de Dieu aujourd'hui. Et maintenant, je vous invite à fermer les yeux, non pas pour prier, mais pour vous imaginer dans votre lit. Je vois beaucoup d'yeux ouverts. Hein. Pour vous imaginer dans votre lit de bon matin, votre réveil vous arrache à votre sommeil et vos yeux collent encore. Mais alors que vous les frottez, avant de vous lever, faites cette prière que je vous invite à dire maintenant à haute voix. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée de grâce. Donne-moi de marcher dans les belles œuvres que tu as préparées d'avance. Que l'on puisse faire ça tout au long de cette semaine. Quatrième application. Je vous invite à chercher à servir Dieu dans l'église locale comme une des facettes des œuvres préparées d'avance dans notre marche avec Dieu. Il y en a d'autres. À cet effet, je vous invite à noter dans votre agenda un culte spécial qui aura lieu le 23 mars. C'est un culte spécial ministère qui vous permettra de découvrir et de comprendre toutes les œuvres pouvant être accomplies au sein de l'église locale afin de servir notre Dieu, de servir son église. Et pour terminer, je termine non pas par une énième application, mais par celle qui les précède toutes. Si par ce message, Dieu a touché votre cœur, si vous vous posez la question de ce que Jésus a accompli pour vous, si vous voulez avancer avec Jésus, si vous vous posez la question du baptême, ne laissez pas Satan vous appâter à nouveau avec du sucre raffiné. Prenez les devants et parlez-en à un chrétien affermi dans la foi. Et si besoin, Nicolas, notre pasteur et moi-même, nous tenons aussi à votre disposition. Mais avant de vous laisser, j'aimerais qu'on puisse terminer ensemble par la prière. Et si vous le souhaitez, vous pouvez répéter après moi dans votre cœur ou de manière audible ces paroles. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que même si je peux paraître une bonne personne, je suis contaminé par le péché. Je reconnais qu'aucune action de ma part ne peut me sauver. Et je te remercie pour ton ardent amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta compassion à mon égard. Je te suis reconnaissant de t'être chargé de mon péché. Je te loue de m'avoir ramené de la mort à la vie. Je t'exalte de m'avoir sorti de ma condition d'esclave pour me faire siéger dans les lieux célestes. Je veux te suivre chaque jour de ma vie. Je veux vivre une nouvelle vie par la foi en Jésus. Je veux marcher dans les belles œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.